Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Comment des citoyens regroupés en associations peuvent-ils participer à leur manière à l'amélioration des milieux naturels malmenés par l'activité humaine ? Protéger les communs naturels, c'est le thème de cet épisode. Pour y répondre, Arnaud de la Jatre, docteur en droit public et maître de conférences à l'Université d'Angers, nous a reçus. Mais tout de suite, direction La Minitrée avec Laurent Méraud, président des Pivert de Loire, et Thomas Forestier, membre de l'association. Ils nous reçoivent dans cette commune où la structure a réalisé de très nombreux chantiers de replantation d'arbres et de haies. La Minitrée, on peut dire quelques mots sur cette charmante commune en bord de Loire.
La Minitrée, c'est une petite commune de 2000 habitants, enfin qui est en bord de Loire, qui a une partie en bord de Loire et une partie un petit peu décalée, ce qui fait que les habitants ont un lien particulier avec la Loire, mais en même temps vivent pas directement en bord de Loire comme les communes avoisinantes. Donc ont aussi un lien avec l'agriculture. Les Pivert de la Loire, c'est une association qui a maintenant presque 5 ans, qui est née de la volonté d'agir pour notre environnement proche. Voilà, l'association a grandi et s'est orientée sur plusieurs ateliers, plusieurs animations en fait, avec des temps forts, qui sont des actions consacrées à l'environnement, soit à sa connaissance, soit à sa protection.
Et est-ce qu'on peut donner une définition de la micro-forêt ?
Ouais, ce sera plutôt la nôtre, c'est pas forcément hyper scientifique. C'est un terme qu'on a pris pour imager ce qu'on fait le plus. C'est des plantations en densité plus forte et micro parce que aussi, on travaille plutôt en milieu urbain ou en campagne, mais sur des petites surfaces, donc on plante pas des hectares. Le plus gros qu'on ait fait, c'est sur 2000 m². Le but, c'est de planter avec beaucoup de biodiversité, donc c'est pas une plantation ou une forêt en fait qui est vouée à exploitation. C'est pas une monoculture en fait.
Quand on lit certains articles divers et variés, microforêt, c'est un petit peu un effet de mode.
Ouais, peut-être, c'est possible. C'est vrai que c'est assez récent en France et en Europe. Est-ce que c'est pour surfer ? Je sais pas. Nous, ce qui nous comptait surtout, c'est agir et trouver un petit peu un emblème qui rassemble les gens autour d'une action. Donc, en fait, on dit micro-forêt, mais nous, c'est aussi des plantations de haies. Donc, des triples, des doubles ou des bosquets. On peut aussi dire bosquets, en fait, pour micro-forêt. Après, si c'est mode ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas grave si ça fait rassembler les gens pour agir, passer un bon moment, apprendre à se connaître aussi. Et finalement, c'est plutôt une excuse pour passer du temps ensemble, mais en ayant la conscience en fait, d'avoir agi pour protéger un petit peu notre environnement. Quoi.
Le travail s'effectue à la fois auprès des particuliers, auprès d'autres associations, mais aussi auprès de collectivités.
C'est les gens qui viennent nous solliciter. Nous, ce qu'on voulait, c'était élargir le plus possible. Donc, on fait des plantations et sur des terrains publics et sur des terrains privés, enfin, sur leur domaine, sur leur maison, leur jardin, etc. Il y a plusieurs systèmes de financement pour nous aider. On fait appel à des dons et les adhésions des adhérents servent à financer notamment les plantations qui sont sur des terrains privés, sur lesquels c'est plus compliqué d'avoir des subventions. Par contre, sur les terrains publics, on peut avoir des subventions, donc c'est aussi compliqué en ce moment parce qu'il y a beaucoup de baisses de subventions. Et donc on a une entreprise qui s'appelle Maitree qui nous aide en fait à faire tout ce qui est dossier de subvention, trouver les financements et après qui organise en fait comment l'acheminement des protections, des arbres et du paillage pour ces plantations-là. Et pour les plantations privées, il y a un autre système de financement, ce que je disais tout à l'heure, mais elle vient nous aider aussi parce qu'on a un partenaire pour regarder le sol, regarder ce qu'on peut planter et en fonction de l'endroit où on ne plante pas la même chose. Quoi.
On va passer la parole à Thomas Forestier. Comment ça se passe une plantation ? Il y a différentes étapes, on n'arrive pas le jour même sur le terrain et on plante les arbres, il y a un peu de travail en amont.
Eh bien oui, donc nous on fait une plantation chez nous cet hiver. Avec l'association on se réunit et avec le Maitree qui nous fournit les arbres pour savoir quelles espèces on peut planter, ce qu'on disait, en fonction du type de sol, etc. Chez nous c'est un sol inondable, donc il y aura beaucoup de et un peu moins d'arbres sensibles à l'inondation par exemple. Et puis ensuite aux propriétaires du terrain de préparer le terrain. Donc pour nous c'est de dégager tout ce qui peut y traîner sur la plantation forcément, tondre, préparer le sol. Chez nous le sol est meuble donc il n'y a pas besoin d'aller de les préparer vraiment en profondeur. Et être dans l'association donc comme on disait c'est aussi se retrouver entre personnes qui ont un intérêt pour l'environnement, de reverdir un peu tous ces espaces qui sont un peu perdus. Il manque un peu d'arbres, il manque un peu de verticalité. Et puis on sait que ça permet d'avoir un impact sur la biodiversité. biodiversité, ramener des oiseaux, ramener des papillons, ramener des insectes. C'est aussi agréable de se promener dans un endroit où il y a plein d'oiseaux. On entend les oiseaux chanter, quoi.
Les arbres permettent aussi de lutter contre le changement climatique, car ils captent du carbone. Le GIEC, Pays de Loire, recommande de planter 900 000 arbres par an dans la région pour capturer 4 millions de tonnes de CO2 d'ici 2050.
Donc du coup, on va voir le plus possible de plantations au bout d'un an et au bout de deux ans. Et si c'est pas nous, c'est soit le propriétaire qui on pose des questions pour savoir comment ça s'est passé. La parcelle d'une mairie qu'on a plantée l'année dernière, les agents du service technique sont allés voir en fait pour comptabiliser la mortalité. Et voilà, il y a très peu de morts, donc c'était une belle réussite. Il y a aussi Maitri qui participe, c'est-à-dire que quand il y a un financement public, ils ont l'obligation en fait de venir voir s'il y a eu de la mortalité. S'il y a une mortalité qui a dépassé les 10%, en fait, le financement est prolongé pour compenser cette mortalité. Donc il y a un suivi qui est fait soit par nous, soit par les propriétaires, soit par Maitri, dans tous les cas, sur les premières années. Et à chaque fois, il y a aussi, j'ai oublié de dire, un contrat en fait qui est fait avec le propriétaire pour ne pas détruire la plantation, je crois, de mémoire sur une période de 60 ans. Quoi.
Est-ce que l'association pense participer à une certaine écologie populaire ?
Alors oui, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais sur nos ateliers et sur nos plantations aussi, en fait, la participation est gratuite et volontaire. On fait le plus de publicité possible pour que les gens viennent. Des plantations et des actions aussi participatives. Donc on a des enfants, on a des jeunes parents, on a des retraités. L'objectif, c'est d'être ouvert à tous le plus possible et de passer un moment agréable et de faire émerger un petit peu des consciences. On n'est pas dans le militantisme à vouloir absolument que les gens pensent comme nous.
Vous associez aussi le côté artistique à ces opérations de replantation, micro-forêt. Un projet d'un livre, arbre, plantation.
Oui, mais en fait, le problème, c'est que les plantations, c'est que l'automne et après, on s'ennuie. Alors, on ne sait pas quoi faire. On a pas mal d'idées pour s'occuper le restant de l'année et on s'est dit que pour récompenser un peu les adhérents, on voudrait faire un livre. Notre idée, c'était de faire une page qui met en avant un arbre, un type d'arbre qu'on plante, donc on est à peu près à une vingtaine d'essences, donc on va tourner autour d'une vingtaine de pages, mais chaque page sera traitée différemment, donc ça va de la lithographie, de la gravure, du dessin, on a fait aussi du crochet, on va faire de la photo, et à chaque fois avec une patte artistique, donc soit c'est par exemple le papier qui est fait manuellement, soit ça va être l'encre qui est utilisée qui en fait vient des baies du fruit de l'arbre qu'on a planté. C'est à chaque fois une petite recherche et puis un petit défi pour en fait avoir une vision différente du végétal, parce que du coup on apprend plein de choses en faisant ça, on apprend les bienfaits de l'arbre, mais ça n'a pas qu'une fonctionnalité en fait aujourd'hui végétale.
La surface de la forêt en Pays de Loire est de 417 000 hectares, soit 13% du territoire, un chiffre peu élevé par rapport à la moyenne nationale de 32% de taux de boisement. Autre particularité du territoire, les surfaces boisées y sont morcelées. Et 91% des forêts appartiennent à des propriétaires privés, d'où l'intérêt de mobiliser tout le monde pour replanter des arbres.
On est, je crois, de mémoire, à 16 500 arbres de plantés depuis le début. Donc on compte là-dedans ceux qu'on a fait en propre, les associations qu'on a aidées aussi. Pour donner une échelle, la plus grosse qu'on ait fait, c'était 2000 arbres. C'était dans des conditions un peu particulières où il pleuvait toute la journée, c'était compliqué. On a dû y passer 2 ou 3 journées, je crois. Et l'année dernière, on a fait une très grosse aussi à 1500 arbres, où on l'a fait en 2 fois, une partie avec les écoles, une partie avec le public. 16 000, ça veut dire 15 jours de plantation minimum, avec toute une organisation en amont, et nous on essaie de planter entre 3 et 5 plantations par an. Enfin, nous on est contents de ces 16 000 en tout cas.
Thomas Forestier, vous avez des partenaires, donc une pépinière, et comment travaille la pépinière en quelques mots ?
Donc c'est une pépinière locale, ne part pas de bouture, mais va cueillir des graines d'arbres sur des graines et des fruits, bien sûr, sur différents arbres sauvages dans les haies répertoriées comme des haies historiques. Et c'est ça après qui multiplie, qui élève et qui nous fournissent pour les plantations. Le rêve de l'association, ce serait d'avoir un terrain propre à l'association, une forêt gérée par nous. Ce n'est qu'un rêve pour l'instant.
Et on essaie d'y travailler, de concrétiser ce rêve-là. C'est de pouvoir garantir en fait la pérennité de ce qu'on veut faire, réserver un endroit. Donc il y a d'autres associations qui font ça, mais voilà, on voudrait aussi aller vers ça, donc réserver un endroit à la biodiversité.
Pour aller plus loin sur le thème espace naturel et citoyen, réponse avec Arnaud de la Jartre, docteur en droit public et maître de conférence à l'université d'Angers, enseignant au droit à l'environnement et urbanisme et membre du Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire. Il nous donne, en préambule, sa définition des microforêts.
Je ne suis pas un spécialiste des microforêts, effectivement, j'ai plutôt l'habitude de travailler sur l'arbre en ville, et souvent plutôt un arbre isolé. Bah, aujourd'hui, c'est un concept, on va dire, écologique, de regroupement de différentes catégories d'espèces, de différents types de milieux forestiers, sur un même espace, souvent assez petit, d'après ce que j'ai compris. Moi, je le vois à travers les actions qui sont mises en place par les collectivités territoriales, qui sont beaucoup saisies de cet outil des microforêts, entre autres des microforêts urbaines, pour rapporter des poumons verts en ville. C'est un espace concentré, souvent de différents types d'espèces, et qui a vocation à évoluer de manière naturelle dans une concurrence entre végétaux, qui est admise, qui est même souhaitée, et qui est censée étager, finalement, cet espace forestier.
La microforêt, c'est une manière de donner aux citoyens un petit peu la main sur la nature, sur l'environnement.
Dans l'enquête que vous menez, effectivement, vous avez rencontré des associations et des citoyens qui le font. Moi, comme je travaille en droit public, donc à la faculté de droit d'Angers, je travaille plutôt sur l'action des collectivités locales, alors qui n'est pas exclusive évidemment de la participation citoyenne. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur une dynamique top-down où c'est la collectivité qui fait le choix de mettre en place sur un espace dont elle a la maîtrise foncière, donc ce concept de micro-forêt.
L'arbre est de plus en plus nécessaire pour le milieu urbain. On revégétalise les cours d'école, c'est aussi important.
C'est intéressant, c'est d'ailleurs très encourageant de voir ça, après avec parfois des contradictions, on va dire, dans l'action des collectivités, mais bon. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même, les collectivités aujourd'hui, et c'est parfois évidemment la population, les associations locales, les comités de quartier, les habitants, etc., qui le demandent. Mais bon, les collectivités ont bien compris, et c'est un tournant récent finalement, qu'il fallait refaire une place pour le végétal. Donc effectivement, ça peut être de l'arbre, ça peut être de la forêt, mais effectivement, l'exemple de la revégétalisation des cours d'école ou de tout un tas d'espaces, il y a en droit de l'urbanisme un concept qui s'appelle le zéro artificialisation net, qui dit bien que désormais, il va falloir lutter contre l'artificialisation des sols. Donc ça veut dire refaire des sols naturels, des sols végétalisés, des sols perméables. Voilà, ça c'est un virage législatif assez récent. Mais au-delà de ça, c'est une prise de conscience des collectivités aussi que bon, y a des enjeux de température, il y a des enjeux de ruissellement des eaux, il y a des enjeux de lutte contre le risque inondation. Et puis c'est aussi tout simplement notre cadre de vie. Donc c'est là aussi que souvent on se mobilise, c'est qu'on a envie que ça change et on a envie de voir dans notre quartier ce qui se fait ailleurs.
En tant que maître de conférence, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le bouclier environnemental ?
Avec plaisir, parce que bon, à ma connaissance, c'est une marque déposée sur le site de mon laboratoire de recherche sur la chaire Earth. Bon, effectivement, je ne pense pas que ce soit une expression qu'on trouve dans la littérature par ailleurs. Moi, je l'ai inventée tout simplement en pensant au bouclier social qui peut exister dans les programmes de reconstruction de logements et qui permet de préserver le droit au logement de ceux qui font l'objet de cette rénovation urbaine. Alors, le bouclier environnemental, l'idée, c'est qu'en fait, il faut ne pas descendre sous un certain seuil de protection de l'environnement. Alors, c'est en lien direct avec un principe qui est inscrit dans le droit français, qui est inscrit dans le premier article du Code de l'environnement, qui est le principe de non-régression. Depuis des dizaines d'années, l'idée du droit international, européen et français, c'est de protéger de plus en plus l'environnement, quand même de temps en temps d'abord des retours en arrière. Bon, pourtant, légalement, en tout cas dans le droit français, ce principe de non-régression, il implique qu'on ne peut pas faire machine arrière en matière de protection de l'environnement. Donc, l'idée du bouclier, c'est effectivement de dire, bon, une fois qu'on a mis en place un niveau de protection, une forme de bouclier par rapport à la protection de la nature, des espaces naturels, de la biodiversité, etc. Bon, voilà, ce bouclier ne peut pas être abaissé. C'est une autre manière de parler du principe de non-régression.
Alors, est-ce que l'on peut enchaîner et dire quelques mots sur les communs naturels et comment bien les protéger ?
Alors, c'est une notion sur laquelle moi j'ai moins travaillé que d'autres collègues juristes qui ont publié dans un certain nombre de revues. Bon, l'idée, c'est qu'effectivement, on fait partie d'une communauté. Nous, vivants humains, vivants non-humains, c'est un sujet qui est de plus en plus présent aussi dans le droit. Et puis, éléments de la nature, hein, alors soit à l'échelle universelle, hein, il y a des communs universels, soit à des échelles territorialisées, une forêt par exemple, hein, une rivière, un fleuve. Et l'idée de ces communs, c'est qu'effectivement, on gère ensemble avec cette nature et avec l'ensemble des êtres vivants. Juste, les puristes préfèrent qu'on ne parle pas de ressources, qu'on ne parle pas de biens, qu'on ne parle pas de patrimoine, parce qu'on est déjà en train de réifier ou de chosifier ces éléments. Et c'est l'idée qu'on doit, un peu comme si on était dans une logique un peu animiste, hein, revenir dans une symbiose avec la nature et la gérer ensemble dans notre intérêt collectif. Alors ça existe un tout petit peu dans le droit français, puisque là aussi a été inscrit, donc il y a quelques années, le principe de solidarité écologique. Donc c'était un principe qui existait déjà dans le fonctionnement des parcs nationaux, mais désormais c'est à l'échelle globale qu'on doit appliquer normalement le principe de solidarité écologique, selon lequel, bah, du coup, on est censé être solidaire, nous, humains vivants et non humains et ressources naturelles.
Alors une question importante, comment combiner lutte contre les inégalités sociales et la protection pour l'environnement ?
Voilà, ça pourrait être mon sujet de dissertation pour les étudiants au second semestre. Alors c'est sûr que effectivement aujourd'hui on voit bien qu'il y a des inégalités sociales face à l'environnement. Il y en a une qui est souvent mise au devant, surtout en plein hiver comme ça. C'est le principe de précarité énergétique, c'est-à-dire que par rapport à l'énergie et par rapport aussi à ces enjeux de moindre consommation d'énergie. Bon, il y a des gens qui ne peuvent plus payer leurs factures et qui voient les choses beaucoup du point de vue de l'administration, puisque c'est à ça que je forme mes étudiants. Mais à la fois, évidemment, l'État et les collectivités, les administrations ont un rôle majeur. Mais pas que, on voit aussi des entreprises mettre en place des actions. Par exemple, je pense à des plans de déplacement d'établissement qui permettent de réduire les coûts et puis de contribuer à décarboner un territoire. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle aujourd'hui les transitions écologiques, sociales, solidaires, énergétiques. Une partie de ces actions sont aussi portées par des associations locales. Une radio qui contribue à diffuser de la connaissance, des retours d'expérience le fait aussi. Enfin, voilà, il y aura bien d'autres choses à dire, mais voilà quelques exemples.
Vous êtes aussi membre du CA du Conservatoire des espaces naturels des Pays de Loire. Il y a de nombreux défis pour les actions que vous menez au niveau de ce conservatoire.
C'est une instance que j'aime beaucoup, un peu présent à sa naissance, puisque c'est un conservatoire d'espaces naturels. Donc, on va dire qu'en gros, il y en a un par région, et celui des Pays de la Loire est né en 2015. Du coup, le directeur actuel m'avait demandé en 2016 d'être le président du conseil scientifique de ce conservatoire, donc ce que j'ai fait pendant 6 ans. J'ai passé la main, mais justement, j'ai voulu rester impliqué dans l'action de ce conservatoire. Alors, un conservatoire, ça pour mission, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais de protéger la biodiversité. Et sa manière d'intervenir principale, c'est de faire de l'acquisition foncière, puisqu'une fois qu'il a acheté, bah évidemment, il va pouvoir mettre vraiment en place toutes les actions qu'il veut. Donc, un enjeu pour le conservatoire, évidemment, c'est de continuer à faire de l'acquisition foncière. Et donc, pour ça, bah, bien sûr, un enjeu, c'est qu'il ait suffisamment d'argent pour le faire. Donc, ça, c'est un enjeu, parce qu'entre autres, il est financé par la région Pays de la Loire et puis aussi par la DREAL des Pays de la Loire. Sur un autre plan, très très différent, évidemment, il n'y a que des gens compétents, c'est une équipe d'une trentaine de personnes de chargés de mission qui est derrière. Ils savent ce qu'ils font, ça va de soi. Par exemple, un des enjeux pour eux aujourd'hui, ça va être de pouvoir s'adapter et d'adapter la gestion de ce qu'ils ont acheté au dérèglement climatique et au réchauffement climatique. C'est vrai dans les Pays de la Loire, mais évidemment, c'est vrai dans toutes les autres régions, mais ça va être de s'adapter à ces bouleversements majeurs là, qui sont déjà à l'œuvre. On le voit à travers les catastrophes naturelles, entre autres.
Avez-vous l'impression qu'en France, il y a trop de structures qui se superposent pour la protection de l'environnement? Et on peut avoir des fois des doublons.
Ah oui, alors ça c'est un sujet récurrent. J'apprends aux étudiants non juristes entre autres qu'effectivement on a un millefeuille administratif qu'il faut connaître ensuite quand on veut parler avec le bon interlocuteur. Alors après, vu les menaces qui pèsent sur la nature, et puis c'est pas que des menaces, on est dans la 6e extinction des espèces en termes d'espèces animales et végétales. Allez, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui restent vraiment vraiment dans le rouge. Je dirais que plus il y a d'acteurs mieux c'est. Après, faut jamais oublier que en fait, parfois, les acteurs interviennent sur un même espace, mais avec des objets, des critères d'intervention différents. Il y en a, ils vont intervenir pour protéger la biodiversité. D'autres vont intervenir plutôt sur la question du paysage. Donc, il y a une notion qui est un peu plus culturelle et un peu plus anthropique.
Est-ce qu'on peut finir sur une note optimiste avec l'environnement, avec la biodiversité ?
Effectivement, par exemple, les surfaces d'espaces naturels protégés augmentent et de toute façon, auront vocation à continuer à augmenter parce qu'il y a des exigences. Donc, plus on va protéger la nature, plus on va se protéger nous-mêmes. Donc ça, c'est un indicateur un peu mathématique. Voilà, faut pas baisser les bras et il faut continuer à se battre pour notre environnement.
Un entretien mené par Michel Boutreux d'RPSFM, la radio en pays saumurois.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.